J'ai fait la connaissance de Marc Girardon lorsque je travaillais dans une entreprise de quincaillerie grossiste. Il venait me voir très souvent chez moi, la plupart du temps la nuit. Nous passions notre temps à discuter de choses et d'autres, surtout de philosophie. Je restais allongé dans mon lit et lui était assis sur une chaise à côté de moi. Il restait chez moi jusqu'à 5 heures et même des fois 7 heures du matin. Nous lisions aussi beaucoup ensemble et plutôt je prêtais des livres que j'avais empruntés à la bibliothèque comme des livres de philosophie ou de psychologie. Des fois, il nous arrivait de sortir en voiture la nuit, comme lorsqu'il faisait de la neige et allions marcher dans la neige dans les monts du Lyonnais. Nous avons fait aussi quelques voyages en Haute-Savoie et dans le sud de la France, comme à Monte-Carlo. Pour ce voyage à Monte-Carlo, comme il savait que j'aimais les grandes voitures, il avait loué une grosse BMW. Ces grandes discussions, disons philosophiques, comme en font très souvent les jeunes gens, nous menaient assez loin et même au-delà de la morale, etc. Une année, Marc a fait son service militaire et cela l'a beaucoup éprouvé. Un soir, il est venu me voir et m'a dit qu'en se promenant sur les Champs-Élysées à Paris, une idée lui était venue que la vie ne valait pas la peine d'être vécue, comme je lui avais dit, et qu'il valait mieux mourir que de vivre médiocrement. Alors il avait décidé de se donner la mort, mais il voulait que je l'accompagnât. J'étais très gêné par cette décision, car je me disais que c'était à cause de mes idées qu'il avait décidé de mourir. Je ne savais pas comment faire pour lui faire changer ses idées. Il venait me voir très souvent et ne faisait que de parler de sa mort et qu'il avait fait le projet de se suicider en se jetant sous un train. Au bout d'un certain temps, voyant que les choses allaient beaucoup trop loin, car il m'emmenait avec lui en voiture pour que nous puissions voir où nous pourrions nous suicider, je décidai de prévenir sa famille et sa mère. Sa mère lui a parlé et il était très en colère contre moi. Puis un jour il est parti et je ne l'ai plus revu. Je n'ai plus eu de ses nouvelles. Et ensuite, il est revenu plusieurs fois et je le revois encore toujours aussi obsédé avec ses idées. Avant qu'il ait eu envie de se suicider, un jour, il est venu chez moi, une nuit plus tôt, et il m'a apporté un magnifique cahier cartonné avec tranches dorées. Il voulait que j'écrive ce que j'avais dans ma tête. Lorsque j'ai eu le cahier, je n'ai pas osé m'en servir. Il était beaucoup trop beau. Alors, j'ai pris un vieux cahier de brouillon pour écrire. Et je commençais à écrire mes idées que je lui avais dit et des petites nouvelles. Ce qui me gênait le plus, c'était qu'il lisait ce que j'avais écrit. J'avais honte. Parmi les idées que je développais, il y avait les fausses idoles, la vie est un gâchis, le péché original, il ne faut pas tout accepter de la vie, les violeurs d'âme, les sentiments, l'absolu, la grandeur, la pureté, la noblesse, la petite flamme, le plaisir, la douleur, le bonheur, etc. Je parlais de la grandeur qu'il faut avoir pour vivre. Je disais ce coup-ci, pour moi, plus l'homme évolue, Plus sa vie intérieure grandit, et les rapports avec l'extérieur et le monde qui l'entoure s'amenuisent. S'il continue dans ce sens, il vivra en esprit, et dans et au-delà du monde, comme Dieu. Qui dit esprit, dit âme, et comme l'âme est immortelle, l'homme aboutira à l'immortalité par la vie intérieure, car plus sa vie intérieure sera intense, plus sa vie deviendra esprit, donc immortel comme Dieu. J'ai écrit aussi qu'entre le verbe et l'action, en gros je disais que si entre le verbe et l'action, il y avait un temps qui se passait, qui risquait d'être trop long, l'action risquait de ne pas se faire. J'ai écrit aussi les douleurs de l'âme. Mon âme hurle, crève, crève. Je suis le condamné, je retourne à la nuit, etc. Comme vous pouvez voir, c'était plutôt des idées sombres, comme ont quasiment tous les jeunes gens. Mais Marc prenait tout ça très au sérieux. Et au fil du temps, Marc devenait sombre et immoral d'une façon philosophique, bien entendu. Pour lui, les hommes ne devenaient que des objets à s'en servir et éliminer après, etc. J'essaie de toujours écrire des idées, alors j'ai voulu me lancer dans des petites histoires, non pas des nouvelles, mais plutôt des petits textes très courts, mais qui n'avaient rien de philosophique. Comme par exemple, le ciel est gris, bonne année, lorsque je suis en montagne, etc. J'ai voulu faire un retour à la philosophie, alors j'ai écrit le lac de Montrion. Le lac de Montrion se trouve en Haute-Savoie, où nous avions passé quelques jours ensemble, Marc et moi, au bord de ce lac, où il y avait un hôtel. C'était au mois de juin, il faisait très beau. Nous passions notre temps à marcher autour du lac et à discuter sur nos idées. C'était avant qu'il avait l'idée de vouloir se suicider. Et le lac de Montrion est devenu quelque chose, disons, de mystique entre nous deux et moi. Et je voulais, c'est en faire quelque chose, un lien particulier où il se passerait des choses extraordinaires à l'intérieur de plusieurs de mes histoires. Je voulais en gros que le lac soit le décor de scènes particulières qui se passaient dans mes histoires. Quelque chose de mystique, le lac devenait. Donc mon écrit raconte notre retour au lac de Montrion lorsque nous sommes de vieilles personnes et nous nous rappelons ce que nous avons fait, pensé, ensemble. Je parlais aussi de ton suicide et de mon chômage, de mes 2 années de chômage, puis du suicide de ma mère, etc. Lorsque Marc a lu le lac de Montrion, cela lui a beaucoup plu. Il était fier d'être dans l'histoire. Ensuite, j'ai écrit une histoire qui s'appelle « L'au-delà du commun ». C'est l'histoire de 2 jeunes gens qui veulent vivre en dehors du monde tout en étant dans le monde. Et ces 2 jeunes gens, c'était Marc et un de ses amis qui s'appelait Florent. J'ai fait passer l'histoire dans les années 20. C'était une fantaisie où j'ai eu beaucoup de plaisir à écrire. Bien entendu, dans cette histoire, Marc a les mêmes idées que dans la vie et il fait des choses horribles comme de tuer et de faire tuer le père de Florent par Florent, etc. Pour la première fois dans mon œuvre, un personnage est apparu, c'est Monsieur de Janjou, qui aura un rôle très important, surtout dans la série de l'élu. Ces 2 jeunes gens qui vivent en dehors du monde, je me suis rendu compte quelques années plus tard que l'histoire que j'avais écrite correspondait à un fait divers réel qui s'était réellement passé en 1920. Que ce fait divers racontait l'histoire de jeunes gens qui n'avaient aucun sens moral, faisaient des choses horribles comme une fois de tuer un enfant pour rien, pour le plaisir. Cela m'a beaucoup frappé. Et de nombreuses années plus tard, après avoir écrit « D'au-delà, excusez-moi, du commun », j'ai écrit l'histoire, mais d'une façon beaucoup plus terrible et horrible. L'histoire s'appelle « La spirale de verre ». « L'au-delà du commun » a aussi beaucoup plu à Marc. Après, j'ai écrit « Les illusionnistes ». Qui est l'histoire d'une famille renfermée en elle-même, vivant dans une maison au fond d'un grand parc. Les membres de cette famille ne veulent voir que ce qu'elles ont envie de voir, et pas les aurores du monde, etc. Pour cette histoire, j'ai voulu remettre les personnages de l'au-delà du commun, mais en leur donnant d'autres noms. Il y a au début de l'histoire un préliminaire, qui présente les personnages, ou plutôt les personnages sont invités chez l'auteur, qui leur dit quel rôle ils auront à jouer, et l'auteur décrit aussi le décor, etc. L'histoire est plus longue que l'autre, et m'a pris pas mal de temps. Comme il y avait énormément de personnages et de retours en arrière, j'étais constamment en train de préparer des plans pour les personnages. Cette histoire que j'aime beaucoup est celle que Marc préfère. L'au-delà du commun, le lac de Montrion, les illusionnistes, ces titres font partie du volume qui s'appelle « Entre la lune et moi ». J'ai choisi ce titre pour regrouper ces histoires parce que je travaillais surtout la nuit pour les écrire. J'ai écrit une histoire qui s'appelle La Nuit. C'est l'histoire d'un jeune homme qui vit un cauchemar au cours d'une nuit. En une nuit, il vit la vie d'une personne. Il a un vieillissement rapide et va d'un moment à un autre de la vie. Il se trouve dans un lit, jeune homme, avec une belle jeune femme, et se retrouve tous les deux vieux, etc. Cette histoire parle de l'enfance, de la famille, de l'armée, de la justice, etc. Du travail aussi, bien entendu. Ceci de façon très rapide et fantaisiste. Il se trouve dans un décor où il ouvre une porte et se trouve dans un autre moment de sa vie. Par exemple, il est dans une chambre où il ouvre une porte et se trouve sur le quai d'une gare. Ensuite, il se trouve dans un désert, etc., etc. Je m'étais imaginé cette histoire un peu comme un film afféminé. Il y avait des personnages ridicules. Je pensais constamment à cette histoire dans la journée, la nuit aussi. Lorsque je sortais, il fallait que je rentre tout de suite pour pouvoir écrire ce que j'avais comme idée. Malgré que Marc n'y était pas, il a beaucoup aimé cette histoire car cela correspondait à ses idées, c'est-à-dire le côté ridicule de la vie. Ensuite, j'ai écrit le plaisir. Au début, j'avais comme une scène de théâtre, un vieux couple dans le salon d'un chalet en haute montagne qui revenait de la messe dominicale où il s'était passé une chose étrange. Une femme à la tenue vulgaire a accosté le mari. Je voyais bien cette scène en imagination, mais au fur et à mesure que les choses avançaient, je voyais le sujet comme un roman. En gros, l'histoire, c'est l'histoire d'un homme, un vieil homme qui est marié avec une femme très stricte du point de vue de la morale et qui, par le hasard d'une rencontre, se souvient de bribes de sa vie. C'est une vie qu'il cache à sa femme. Lorsqu'il était jeune, il n'avait qu'un but dans la vie, c'était le plaisir, et il recherchait le plaisir suprême. Rechercher le plaisir suprême lui faisait faire des expériences comme celle, bien entendu, d'avoir des rapports avec de nombreuses femmes et jeunes filles. C'était un séducteur un peu à la Don Juan. Il ne pensait qu'à son plaisir d'une façon égoïste. Il ne faut pas que j'oublie de vous dire que ça se passait au 19e siècle, à la fin du 19e siècle, et ça se déroulait à Paris et en province. Donc, après de nombreuses aventures amoureuses ou de plaisir, où l'homme cherchait de trouver le plaisir suprême, il se rend compte que le plaisir suprême, c'est l'amour de Dieu. Bien entendu, avant d'arriver à cela, il lui est arrivé des tas de choses, même un crime. Ce roman que j'ai écrit est assez long, mais comme je connaissais à fond le sujet et mes personnages, cela a été écrit rapidement et avec même jubilation. Lorsque Marc l'a lu, il ne l'a pas vraiment aimé, parce que d'abord il n'y était pas, et ensuite il y avait trop de retours en arrière. Il est vrai qu'il y avait énormément de retours en arrière, mais c'était normal, puisque c'est l'histoire d'un vieil homme qui se souvient de sa jeunesse. Ensuite, je me mets à écrire « Qu'est-ce qui fait courir Jean-Denis ?» Là, je voulais écrire quelque chose de très fort et en même temps d'extrêmement délicat à écrire à cause du sujet. Mais je voulais le faire car cela me rappelait un passage de la vie de mon enfance que j'ai bien entendu sublimé et rendu plus fort. Attention, ce n'est pas mon histoire. C'est le thème d'un début, ce que j'ai connu, c'est le thème d'un début d'une histoire, et puis c'est tout, rien de plus. Alors dans l'histoire, dans le roman, c'est l'histoire d'une personne qui j'ai connue au début. C'est l'histoire toute simple de deux garçons d'à peu près une douzaine d'années, je ne me souviens plus, peut-être un peu moins, dont l'un a vécu à Tahiti. Le garçon est ébloui parce que son camarade qui vivait avec son père et qui était gendarme là-bas, mais malheureusement, le garçon est de retour en France, à Lyon, pour ses études, mais ne rêve que de retourner à Tahiti. Les deux garçons se lient d'amitié d'une façon très forte, et ne rêve que d'une chose, c'est d'aller à Tahiti. Ils subliment Tahiti et en font quelque chose de merveilleux. Ils sont constamment ensemble et leurs sentiments augmentent de plus en plus. Ils passent leur temps dans la chambre de l'un des deux à écouter de la musique. C'est les eaux bleues d'Hawaii de Ketel Bay. Une très belle musique, très très jolie. Ils écoutent les eaux bleues d'Hawaï allongés sur le lit. L'un des garçons, celui de Tahiti, se prend d'une affection très forte et même dangereuse pour lui. Pour son ami intime. Cette affection fait un peu peur à l'autre garçon parce qu'il a peur de l'affection qu'il a pour lui et qu'elle devienne dangereuse pour lui. Pour l'autre garçon et décide pour son bien de se séparer de lui d'une façon très violente. Le garçon s'aperçoit c'est que son ami qui était à Tahiti a trop d'affection pour lui et il a peur que cette affection devienne nuisible et dangereuse pour son ami. Donc, il veut se séparer d'une façon violente. Ils veulent qu'ils se séparent, mais d'une façon violente. J'ai réellement, bien entendu, rencontré un jeune garçon qui venait de Tahiti. J'avais à peu près l'âge du héros qui avait rencontré ce jeune garçon. Et je m'étais pris d'amitié pour lui, tout en rêvant de ce lointain qui me semblait merveilleux. Mais malheureusement, mais Bien entendu, cette histoire que j'ai connue ne correspond plus du tout, à part que j'ai connu une personne qui habitait Tahiti, le reste c'est tout de l'invention. Hein. Alors j'ai écrit cette histoire et la sublimais d'une façon très lente, et j'avais peur que ça devienne quelque chose de trop sulfureux, mais je continuais à l'écrire. Cette fois-ci, j'écrivais très, très lentement. Puis un jour, j'ai rencontré un jeune homme dans les 25 ans qui m'avait raconté son histoire, une histoire un peu semblable à celle-là. Il avait aimé un autre garçon de son âge qui était le fils de sa concierge, et ils ont fait des tas de choses ensemble, comme de partir en Italie tous les deux, etc. Puis un jour, le garçon s'est rendu compte que l'autre garçon, le garçon de la concierge, aimait les filles, et puis les gens du voisinage parlaient sur eux, et tout ça pouvait être nuisible pour le fils de la concierge. Alors, pour ne pas lui faire de mal, le garçon se suicide, fait une tentative de suicide. Ensuite, il lui est arrivé des tas de choses, etc. Et ce garçon s'appelait Jean-Denis. Son histoire m'a donné l'idée de la deuxième partie de mon livre. Mon personnage principal rencontre le dénommé Jean-Denis, essaie de comprendre pourquoi il mène une vie trépidante et où il cherche à avoir des rapports amoureux avec toutes les personnes qui lui plaisent sans avoir de l'affection. Et un jour, Jean-Denis lui raconte son histoire qui ressemble beaucoup à celle qu'il a connue avant. Malheureusement, Jean-Denis meurt d'un accident de la route, etc. Bien entendu, même au cours de cette deuxième partie, il y a toujours les eaux bleues d'Hawaï et le regret de cet amour d'enfance pur qu'il avait connu. De cette histoire, de ce qu'est-ce qui fait couvrir Jean-Denis, j'en ai fait une adaptation radiophonique, mais j'ai eu des très gros problèmes à Radio Canu, car on trouvait que c'était immoral. On voulait me faire renvoyer de la radio. Pourtant, elle est décrite d'une façon très pure, et il n'y avait rien d'immoral là-dedans. Cette histoire, Marc ne l'a pas lue, et je ne crois pas que ça lui aurait plu. En gros, l'histoire de qu'est-ce qui fait courir de Jean-Denis, c'est un garçon qui rencontre un autre garçon, qui est épris de lui, il se sépare de ce garçon pour son bien, et quelques années plus tard, il rencontre Jean-Denis, qui lui raconte son histoire, et Jean-Denis meurt. Voilà. J'écrivais cette histoire, c'était surtout pour moi. Je ne cherchais pas à les faire lire. à les présenter à qui que ce soit, à part Marc, bien entendu. J'écrivais, c'était surtout pour me distraire et pour sortir de la vie que je menais, qui ne me plaisait pas du tout et que même je détestais. N'ayant que très peu d'argent, ne pouvant rien faire d'autre pour me distraire à part acheter une fois par an un cahier de brouillon de 500 pages pour écrire. Un soir, alors que je m'étais acheté une petite radio, j'ai écouté une radio indépendante qui s'appelait Radio Léon. Et j'avais trouvé leur émission assez intéressante. Alors je suis allé voir et j'ai discuté avec eux. L'on m'a pris pour un professeur d'histoire. J'ai été accepté pour raconter des histoires. Et au début, comme je n'osais pas lire mes histoires à moi, par peur et honte, je me suis mis à lire des extraits de livres. Cela a duré quelque temps, et puis j'ai pris mon courage à deux mains, et je me suis mis à écrire des petites histoires par émission. Une histoire, comme par exemple Le Monde de Claire. Le Monde de Claire, c'est l'histoire d'un homme qui a la trentaine et a comme voisine une jeune fille très belle et très courtisée. Il tombe amoureux de cette jeune fille et réussit à en faire son amie. La jeune fille part en vacances. Elle lui laisse les clés pour prendre le courrier et surveiller son appartement, où il pourra même passer un moment dans l'appartement. Il passe un moment seul dans cet appartement et se met à rêver à elle grâce aux objets qui se trouvent dans l'appartement. C'est le monde de Claire, comme le titre. Il se met à rêver à elle et aussi à mettre ses vêtements qui lui donnent des envies érotiques. La jeune fille revient, elle lui laisse les clés, mais elle rencontre un autre jeune homme et lui dit qu'elle va vivre avec ce jeune homme, mais qu'ils pourront rester amis tous les deux. Malheureusement, l'homme ne supporte pas cette vie qui risque d'être à trois et lui écrit une lettre pour lui dire adieu. La jeune fille qui lit la lettre se met à penser à tout ce que représente l'homme et lui dit qu'elle ne veut pas qu'il la quitte, et lui dit qu'elle l'aime. Ils vivent ensemble, et la jeune fille a un accident de la route et en meurt. Cette histoire est un peu ce qui m'est arrivé, un peu et même, disons, beaucoup. J'ai écrit je ne sais trop combien d'histoires. C'était très difficile car il fallait une fois par semaine trouver un sujet différent. Pouvoir écrire et enregistrer. Une émission égale au moins 30 pages d'écriture. Au début, je faisais mes émissions en direct et puis je me suis rendu compte que c'était trop difficile. Alors je l'enregistrais comme je pouvais chez moi avec du matériel de fortune et l'enregistrement n'était pas très bon. Ensuite, lorsque Radio Léon a fermé, je suis allé à Radio Canu et continué mon émission pour raconter des histoires. Et petit à petit, je me suis acheté du matériel pour enregistrer un peu mieux. Mais ça a été long parce que ça coûte très cher, le matériel d'enregistrement. Un jour, j'en ai eu marre d'écrire une fois par semaine une nouvelle histoire. Il fallait toutes les semaines que je trouve un sujet d'histoire. Alors j'ai voulu essayer de créer des histoires plus longues qui me permettraient de faire plusieurs émissions. Au début, j'avais des difficultés et je ne savais comment faire car j'avais perdu l'habitude de faire une histoire bien développée. Avant d'écrire une histoire, il faut que je trouve le thème, l'époque, le lieu, faire des fiches pour chaque personnage où il y a le nom, l'âge, la profession, etc. Trouver le début de l'histoire et la fin. Et entre le début et la fin, c'est du remplissage pour arriver au but. J'arrivais très bien avec les petites histoires. Mais pour les grandes, j'avais perdu l'habitude de le faire. Et il fallait que je trouve un thème à développer qui soit plus long. Plus long et faire du remplissage plus important. Avant de commencer, pour mes grandes histoires, il fallait aussi que je fasse un résumé de l'histoire très complet, qui quelquefois avait 250 pages ou plus. Mais petit à petit, j'y suis arrivé. Une de mes premières histoires un peu longues a été « Les conspirateurs » qui racontaient que la société, la famille, etc. conspirent pour que la personne puisse vivre d'une certaine façon comme ils l'ont décidé.